série, bienvenue dans Sérivore. Maintenant, choisissez votre camp.
Devenir un Cereal Lover
ou un Cereal Eaters.
Bonjour les Sérivores, nous allons aujourd'hui avec David vous parler de la série Haven ou Les Mystères de Haven, une série télé américano-canadienne créée par Sam Hurst et Jim Dune et librement inspirée du roman Colorado Kid d'un certain Stephen King.
Et c'est une série qui a été produite des années 2010 à 2015 et qu'on pourrait classer comme fantastique. Donc c'est une série originale qui est composée de 5 saisons, soit 78 épisodes de 42 minutes.
Donc on voit que d'une nouvelle de Stephen King, on peut faire une série quand même assez longue. Ça fait penser un petit peu au Hobbit, petit livre, mais trois films. Alors le synopsis, c'est l'histoire de l'astucieuse agent du FBI, Audrey Parker, qui est ouverte aux possibilités d'une réalité paranormale due à son passé un peu perdu et étrange. Quand elle arrive dans la petite ville d'Haven, dans le Maine, pour une affaire de routine, elle se retrouve rapidement mêlée au retour des phénomènes surnaturels qui affectent cette petite bourgade comme autrefois. De plus, elle trouve une coupure de presse qui peut-être va lui démontrer qu'elle est reliée à cette ville et sa mère, alors qu'elle n'a jamais connu sa mère et qu'elle ne connaissait pas cette ville. Donc elle enquête en même temps sur son passé, en même temps que sur des phénomènes surnaturels. Donc on retrouve un petit peu tout l'univers de Stephen King. Ça se passe dans le Maine, comme la plupart de ses histoires. La Nouvelle-Angleterre et le Maine, il adore faire toutes ces histoires dans cette région-là et là, on n'y échappe pas. Eh bien, quoi de mieux que de commencer par le générique des Mystères de Haven. Eh bien, dans le rôle-titre, c'est Emily Rose qui se colle dans le rôle principal de Audrey Parker, mais qui a aussi joué plusieurs personnes, puisqu'on va découvrir qu'elle a plusieurs identités au cours de la série, entre autres Lucy Ripley, Sarah Vernon, Lexie DeWitt, Mara et Paige. Donc elle est agent du FBI, comme je le disais tout à l'heure. Elle a choisi d'être mutée dans un commissariat de Haven pour découvrir ce qui se passe dans cette ville, puisqu'elle adore enquêter sur le paranormal, et elle veut retrouver aussi ses racines. Et elle est immunisée contre ce qu'on appelle les affections. Nathan d'ailleurs, qui est un des personnages dont tu vas parler après, se ressent un petit peu ce contact. Et donc, elle, contrairement aux autres personnes, elle n'est pas touchée par les effets surnaturels de cette petite bourgade.
Alors, il y a Lucas Bryant qui joue Nathan Vumos. Il est le fils du chef de la police d'Haven. Il souffre de neuropathie idiopathique, ne s'entend pas du tout avec Duke Kroger au départ. Puis, avec le temps, ils deviennent amis.
Donc Eric Balfour qui joue le fameux Duke Crocker. Alors lui, c'est un petit peu le Han Solo de Haven, puisque c'est un contrebandier de grande réputation. Il hérite du Grey Gull par l'un de ses amis, donc c'est un restaurant. Sa malédiction à lui est très particulière. Quand il tue une personne, son affection disparaît définitivement, et celle de sa famille aussi. Donc on voit, ça c'est un des exemples des choses qui peuvent arriver à Haven.
Il y a aussi Nicholas Campbell qui a joué le chef Garland de Wumos, le père de Nathan, en saison 1 et invité aussi en saison 2 et en saison 3.
Et on retrouve aussi Richard Donat qui va jouer Vincent Tiggs de la saison 1 à la saison 5. John Dunsworth qui joue Dave Tiggs dans la saison 1 à la saison 5.
Et puis Stephen McCarthy qui joue le révérend Ed Driscoll en saison 1 et 2.
Donc toujours ce côté un petit peu de la religion avec le surnaturel, ce qu'aime bien Stephen King.
C'est ça.
Eh bien, nous allons parler des petites anecdotes autour de la série, il y en a encore aussi. Alors, une partie de l'équipe créative du Haven avait déjà collaboré sur la série Dead Zone, une autre adaptation de l'œuvre de Stephen King. Et c'est Lionel Segan et Sean Pillier qui ont participé à l'écriture de tous les épisodes de la série, avec Anthony Michael Hall. Et de son côté, Scott Shepherd, showrunner de Haven, était aussi l'un des producteurs de Dead Zone. Donc, vous voyez, on retrouve vraiment l'équipe. Quant à Jim Dune et Sam Hurst, scénaristes de quelques épisodes de la série fantastique, ils ont tous deux écrit le scénario du pilote de Haven et ont également été producteurs exécutifs. Donc, vous voyez, une équipe qui se connaissait déjà, qui avait l'habitude de travailler ensemble.
Et en septembre 2009, Entertainment One annonce le projet d'une série télévisée inspirée du roman Colorado Kid de Stephen King, avec une commande de 13 épisodes. En novembre de la même année, la chaîne américaine Sci-Fi acquiert les droits de la série. Puis en mars 2010, Can West Global Communication obtient aussi les droits pour la chaîne canadienne Showcase.
Comme on peut voir, il y a toujours des affaires de business. C'est pas évident de monter une série, puisqu'il y a toujours des droits achetés, des collaborations. Enfin, on nous montre bien, encore une fois de plus, la difficulté de monter une série ou un film. Et la série devait tout d'abord être produite par justement des chaînes payantes dans le monde, hormis le Canada et la Scandinavie. Donc, comme quoi, finalement, il y a eu encore, pour des histoires de gros sous, ça a changé un petit peu.
C'est ça. Et le pilote a été écrit par Sam Hurst et Jim Dune.
Lors du renouvellement de la série pour une deuxième saison, l'annonce a été faite seulement un jour avant la fin de la première saison. Donc,
ils devaient tous être en stress, en fait.
Voilà, c'est pour. Déjà, on a vu pourquoi, parce qu'avec les problèmes de financiers, et puis aussi, ils attendaient peut-être vraiment de savoir jusqu'au bout si ça allait avoir du succès, si ça allait accrocher. Parce que malheureusement, on a trop de séries qui s'arrêtent au bout d'une saison parce qu'il n'y a pas un rendement assez. Soit c'est les fonds financiers, on ne veut plus continuer parce que ça coûte trop cher, ou alors des fois, pour eux, les audiences ne sont pas suffisantes, même si c'est des fois des audiences dont se contenteraient certains sans problème.
Le 12 octobre 2011, la série a été renouvelée pour une troisième saison de 13 épisodes.
Le 9 novembre 2012, la série a été alors renouvelée pour une quatrième saison, aussi de 13 épisodes. Vous voyez, toc toc, c'est par étapes.
Et le 28 janvier 2014, la série a été renouvelée pour une cinquième saison de 26 épisodes. Les 13 premiers seront diffusés en 2014 et les 13 épisodes suivants en 2015.
Comme quoi, là, ils ont vu que c'était rentable. Donc, pour une question financière aussi, hop, on fait les deux saisons.
Une petite partie 1, une petite partie 2.
Voilà, ça évite de faire trop. Alors, le 18 août 2015, la série a été arrêtée pour faute d'audience. Voilà. Toutefois, Sci-Fi diffusera la deuxième partie de la saison 5 qui en débutera le 8 octobre 2015. Le site TV Online confirme l'annulation de la série par l'annonce officielle de Sci-Fi. Le créateur de la série a par ailleurs ajouté que si un autre réseau était susceptible d'être intéressé par la reprise de la production, que cela ne gênerait en rien les fans, car la fin est une fin ouverte, c'est-à-dire il n'y a pas une fin définitive. Donc peut-être aura-t-on le droit à un moment, mais bon, je pense que ça sera dur. On aura le droit plutôt à un remake qu'une suite.
Ou un film pour finir.
Ou un film.
Ça arrive deux fois. En février 2010, l'actrice Emily Rose a été recrutée pour le rôle principal donc d'Audrey Parker. Puis Eric Balfour et Lucas Bryant ont été choisis en mars de la même année.
L'actrice Bree Williamson a obtenu un rôle principal pour la troisième saison. Et en juillet 2012, c'est Nolan North et Claudine Black qui ont obtenu un rôle lors de la troisième saison. Donc, vous voyez des acteurs récurrents arriver petit à petit.
En août 2013, c'est Colin Ferguson et Christiane Camargo et Emma Lana qui intègrent la distribution de la série avec un rôle récurrent lors de la quatrième saison.
Et même chose, en juin 2014, Laura Manel va intégrer la distribution de la série avec un rôle récurrent de la cinquième saison. Donc chaque saison, on peut voir, toc toc, il y a des acteurs récurrents qui arrivent. D'autres, on vous laissera découvrir, disparaissent, mais on va pas vous dévoiler et spoiler les épisodes.
Alors la série est tournée à Chester, Halifax, Hubbards, Lunenburg, Oman Bay et Northwest Cove en Nouvelle-Écosse, au Canada.
Pour sûrement des questions financières, parce qu'on aurait pu la tourner au Maine, mais bon, les coûts sont plus importants. D'où de nombreuses productions, plus les décors se ressemblent, on passe d'un côté à l'autre, on ne sait pas si on est au Canada ou aux États-Unis. Le front de mer de la ville de Haven est celui justement de Lunenburg. Le phare de la série est celui de Battery Point, aussi à Lunenburg. Et par contre, les scènes filmées dans le restaurant proviennent de The Greagle à Northwest Cove, sur la route 329, direction de The Lodge et Mill Cove, en Nouvelle-Écosse. Donc le fameux restaurant qui appartient à Duke.
Le record d'audience de la série est détenu par l'épisode pilote, qui a rassemblé quand même 2,34 millions de téléspectateurs lors de la diffusion sur Sci-Fi. L'épisode 8 de la deuxième saison a enregistré la plus mauvaise audience de la série, avec 1,2 million de téléspectateurs.
En 2009, Emily Rose et Luca Bryant ont joué ensemble dans un téléfilm intitulé « Le bel arnaqueur, Perfect Plan ».
Dans l'épisode 7, La mort en marche, Lexi, Audrey, explique à la légiste qu'elle a des rudiments dans le domaine car elle regarde les experts Miami.
Donc, petit clin d'œil. On retrouve William Shatner, le fameux Captain Kirk de la série Star Trek, dans la saison 5 de Haven. Et cela lui a réussi car elle a obtenu un Saturn Award en 2016 comme meilleur artiste invité par... Donc le passage dans la série lui a donné une récompense de plus.
Beaucoup de références aussi à Stephen King et ses romans sont présents dans la série Haven. Dans l'épisode 2, saison 2, À chacun sa peur, Fear and Loathing, la peur de l'héroïne ressemble au clown du film Ça, il est revenu. Dans l'épisode 13 de la saison 1, La Spirale, un prisonnier parle de la prison de Shawshanks, la prison de la nouvelle Rita Hayworth et la rédemption de Shawshanks dans le recueil Différentes saisons, ainsi que du film Les Évadés à l'ombre du Shawshanks.
Voilà, donc petit clin d'œil, hein, on retrouve toujours du Stephen King partout. Par exemple, dans l'épisode 3 de la saison 2, Love Machine, les machines s'unissent pour tuer les gens qui nuisent à leurs réparateurs, les machines qui se rebellent, et exactement le thème de Maximum Overdrive, film écrit et réalisé par Stephen King, d'après sa propre nouvelle, Trucks, avec une bande originale de la CDC. Dans l'épisode 13 de la saison 2, Douce Nuit, Silent Night, la ville de Haven se retrouve sous un dôme transparent, tout comme dans le roman Dôme de Stephen King et la fameuse série qui a été tirée.
Et le nom du docteur Callahan fait référence au père Callahan, apparaissant dans les romans La Tour Sombre et Salem. Et dans l'épisode 9, saison 1, Le Caméléon, pour son anniversaire, Audrey reçoit un livre Misery enchaîné, une édition originale dédicacée par l'auteur, juste avant que cette femme lui coupe le pied, ajoute Vince. Une référence à Misery de Stephen King. Ensuite, une autre référence au film Shining est faite avec le vélo de l'enfant dans lequel Duke se prend les pieds.
Dans l'épisode 12 de la saison 1, Bis Repetita, il est possible d'apercevoir à la fin de l'épisode une Plymouth Fury de 1958 en miniature, une voiture vedette du roman et du film Christine, écrite aussi par Stephen King.
Il y a aussi plein de références et clins d'œil aux séries TV et cinéma, comme dans l'épisode 4, saison 1, L'Épidémie. Lors de la pluie d'oiseaux, Audrey se tourne vers Nathan et lui dit « Je l'ai vu ce film » et ça finit très mal. Ceci fait donc référence au film Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock, sorti en 63.
Dans l'épisode 11 de la saison 1, Le procès d'Audrey Parker, Audrey Parker rappelle à son patron qu'un autre agent du FBI pourchassait les ovnis. Une référence, bien sûr, à la série X-Files, aux frontières du réel, et une référence à sa nouvelle « Les enfants du maïs » de Stephen King.
Et dans l'épisode 4, saison 2, Coup de foudre, Sparks and Recreation, le coach de l'équipe de baseball Chris Body, Jason Priestley, encourage vivement un garçon du prénom de Brandon, une référence au rôle, bien sûr, de Brandon Walsh, rôle qu'il a rendu célèbre dans Beverly Hills 90210.
Dans l'épisode 6 de la saison 2, Une journée sans fin, Audrey Parker, Day Off, Audrey raconte à Nathan qu'elle revit la même matinée que la veille. Nathan lui dit que c'est son deuxième film préféré, Une journée sans fin, Le jour de la marmotte. Donc, info qui permettra à Audrey de se crédibiliser le lendemain. Donc c'est assez marrant de voir toute la culture ciné et télé représentée. Tu as d'autres exemples.
Oui, dans l'épisode des 10, saison 2, le révérend passe à l'acte. Le couple amoureux se nomme Rory et Amelia, comme les compagnons du 11e docteur de la série Doctor Who.
Dans l'épisode 6, saison 3, Maison hantée, à l'occasion d'Halloween, Audrey pense que Claire Callahan est déguisée en pom-pom girl avec son costume de lycéenne de Haven High. Non, répond-elle, en tueuse de vampires, en montrant un peu la référence à Buffy, tueur de vampires. Ensuite, la maison hantée en question se situe sur Marchand Road. Le nom de cette route évoque la maison des Marstins, au centre de l'intrigue du roman Salem.
Emily Rose a joué dans plusieurs séries télévisées sur HBO et a prêté sa voix dans différents jeux vidéo pour PlayStation, notamment pour la voix d'Elena Fisher dans le jeu Uncharted Drake's Fortune. Ainsi que pour les suites de cette série, Emily Rose a participé aussi à la deuxième saison de la série Brothers and Sisters sur ABC et plus tard sur Fox Life. Elle a fait des apparitions dans Cold Case, Affaires classées FBI, Portée disparue et Jericho. Elle incarnera le Dr. Tracy Martin dans la 15e saison d'Urgence pendant 11 épisodes.
Donc une actrice vraiment beaucoup cantonnée, ouais, à des rôles de série. Eric Balfour fait partie du groupe de rock Born as Ghost. En plus de sa carrière bien remplie au cinéma et dans de nombreuses séries télé. Eric Balfour et Luca Bryant, en 2005, ont décroché des rôles dans la série de courte durée qui s'appelait Sex, Love and Secret. Donc on se retrouvait comme partenaires. Alors c'est marrant parce que dans le Mystère d'Haven, ils se tapent dessus. Ils se supportent.
C'est le contraire.
Et voilà. Et donc c'est assez marrant.
Et en 2016, Lucas Bryant retrouve sa partenaire Emily Rose de la série Les Mystères de Haven dans le téléfilm Un été secret.
Comme quoi, c'est des acteurs dont les chemins sont croisés, c'était un petit peu leur destinée. Et c'est marrant parce qu'il y a des acteurs qui tournent une fois et ils ne se revoient plus jamais. Eux, on voit qu'ils ont eu l'occasion de se recroiser.
Puis après, mais il y en a peut-être qui sont potes et qui font « Tiens, il y a un casting, viens ».
Oui, ça c'est comme partout, ça se fait. Eh bien, quoi de mieux que d'écouter un petit extrait de la série que tu nous as concocté, David.
Tiens, prends ça.
Merci.
Il n'est pas affecté. Ça vient de quelqu'un d'autre.
Mara dit qu'elle comptait donner de nouvelles affections aux gens. C'est sa façon à elle de nous distraire.
Mara peut affecter des gens?
Oui, si elle a la boîte remplie de petites boules noires qu'avait William.
Et comment peuvent-ils en savoir autant sur les phénomènes?
Ils connaissent Evan depuis longtemps.
Je vais lancer un avis de recherche sur Mara et demander à Vince le soutien de la garde.
S'en prendre à Mara, c'est comme déclarer la guerre.
Quoi? T'as peur que des civils soient blessés?
Ou que quelqu'un ait la gâchette facile. Audrey est toujours là, quelque part.
T'es sûr de ça? Tu voudrais qu'on risque la vie de toutes ces personnes, mais... Et si Audrey n'existait plus?
Alors, le plus, c'est les originalités de la série. Je sais pas, quel souvenir as-tu de cette série, David?
J'avais trouvé ça bien sympathique. Et puis, vu que je commençais à cette époque-là à lire les adaptations de Stephen King, j'avais trouvé ça quand même assez... Par rapport à d'autres que j'ai vus aussi, je trouvais que c'était quand même... Ça respectait bien...
Oui, moi, je suis d'accord avec toi. Une bonne adaptation de Stephen King, qui n'est pas toujours le cas. Des fois, c'est vrai. Des fois, c'est de la vie de Stephen King. Je pense au Shining, qu'il avait trouvé pas bon. Enfin, pas bon, mais c'est pas comme ça qu'il s'imaginait. C'est pour ça qu'il s'est fait sa propre version. Ouais, quand même. Il y avait Stanley Kubrick et Jack Nicholson. On trouve plus mauvais comme acteur et réalisateur.
Oui, même dans le deuxième, là, qu'ils ont fait, le docteur...
Oui, la suite.
Ouais, le docteur Sleep.
Alors, j'ai mis de bons acteurs principaux, parce que, comme on a pu le voir, après, ils vont avoir une petite carrière sympa. Je pense spécialement à Eric Balfour et Emily Rose, qui ont toujours une carrière sympa. Et puis, j'ai mis une série fantastique avec des beaux paysages en même temps, parce qu'on tombe dans cette petite ville un petit peu idyllique, ce petit port bien sympathique. On irait bien passer les vacances. Mais par contre, quand on voit comment tout ce qui se passe avec ces effets surnaturels, les gens qui sont bizarres, l'ambiance un peu étrange, bon, c'est vraiment de l'univers de King, hein, sans problème. Et voilà, moi j'avais bien aimé cette série. C'était à l'époque où il y a eu pas mal de séries sur le fantastique qui commençaient à apparaître à la télé, grâce à X-Files, entre autres, puisque X-Files a quand même été le moteur pour relancer un petit peu la science-fiction fantastique dans les séries. Et donc, j'avais trouvé cette série assez sympa. Alors, le moins de la série, j'ai mis des scénarios inégaux, une intrigue parfois confuse à suivre. Ces genres de séries, faut bien suivre les épisodes. On peut pas faire à la carte. Ouais. Sinon, ça devient vite compliqué.
On peut vite se perdre.
Peut vite se perdre. Bon, c'est souvent aussi les romans de King sont bien fournis. Il y a des détails, faut faire attention. Toc toc. Donc voilà, c'est un petit peu. Et puis, comme on a dit tout à l'heure, c'est bien d'arriver à faire une série d'une nouvelle, mais voilà, après ça laisse la part de l'imagination, mais voilà, aussi des fois bah, on peut diluer dans l'eau, hein, comme on dit, hop, c'est, le contenu est beaucoup plus dilué, ce qui fait que derrière bah, on a une série qui peut être inégale. Alors si vous avez aimé, bien sûr, bah, l'incontournable, bah, c'est X-Files, hein. Oui. Puisque, comme j'ai dit, c'est un peu ce qui a relancé la série. La série Millennium, un succès d'année de X-Files, mais qui mélange aussi le fantastique, beaucoup plus que, et puis à moitié l'horreur. Oui. Plus horreur, bah, Poltergeist, où là, c'est pareil, c'est sur les phénomènes paranormaux, une série télé qui était sympa. Bien sûr, il y a les films aussi, Poltergeist. Et puis, plein d'autres séries qui frisent avec le fantastique. Mais bon, bah, je pense que c'est déjà pas mal. Vous aurez de quoi découvrir. Et
puis, oui, c'est déjà bien.
Déjà, faites-vous la série d'Haven et puis des remakes des films de Stephen King ou des originaux.
Il y a de quoi faire.
Il y a de quoi faire. Et puis, il y a aussi les livres si vous avez encore du temps. Le coup de cœur sérivore.
Oui, je vous sens chaud
pour le coup de cœur.
Alors, le coup de cœur sérivore, bah, c'est une série française qui avait lancé deux acteurs, puisque ça s'appelle Le Jeune Fabre, une série télé française en 13 épisodes de 26 minutes, créée par Cécile Aubry. Cécile Aubry qui avait, entre autres, créé Belle et Sébastien, Polly, enfin tout un tas de séries. Et bien dedans, elle avait choisi de mettre en scène deux jeunes acteurs. Bah, son fils Mehdi, qui était déjà célèbre justement par Belle et Sébastien, et puis une jeune débutante qui s'appelait Véronique Jeannot à l'époque, qui est devenue une actrice dont on parlera un peu plus tard grâce à la... Là, c'est la série qui l'a lancée, entre guillemets, au niveau des séries, et puis de sa carrière cinématographique, puisqu'après, on l'a connue grâce à Pause Café, et puis elle a tout tourné dans le Tubi avec Alain Delon, elle a une belle carrière cinématographique derrière. Alors, cette histoire, c'est l'éducation sentimentale d'un jeune homme de 16 ans dans le Montmartre des années 70, ses débuts difficiles dans la vie professionnelle, ses amours orageuses avec la ravissante Isabelle, jouée donc par Véronique Jeannot, et ses démêlés avec son père, qui est un peintre de génie, mais alcoolique. C'est une comédie dramatique, puisque bah, ce jeune ado a affronté tout ça dans un pari plutôt, justement, artistique. On découvre un peu une autre façon de voir Paris, et Paris de cette époque, bien sûr. Et puis, bah, la chanson du générique, Le peintre des étoiles, est interprétée par un certain Demis Roussos. Donc voilà, c'était une série qui avait marqué son époque, une série française, et qui avait lancé donc ces deux acteurs. Eh bien, quoi de mieux que de passer le générique de cette série avec le fameux peintre des étoiles interprété par Demis Roussos. Et voici arrivée la fin de ce Sérivore. Eh bien, au revoir David.
Salut Alain.
Et chers auditeurs, à bientôt sur Radioactif pour de nouvelles aventures avec Sérivore. Bye bye. Bye.
Série, maintenant choisissez votre camp.
Devenir un serial lover
ou un serial eaters.